des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a quelque chose dans l'eau. Ça fait deux fois que des chroniqueurs de l'émission disent qu'ils sont d'accord avec Donald Trump. Plus que la liberté la semaine dernière, qui disait, qui est très critique envers Donald Trump, plus que la liberté, mais qui disait, par contre, sur l'enseignement de l'histoire, je suis d'accord avec les réserves qu'a Donald Trump. Et c'est ton cas, Mathieu.
Oui, ben enfin, on est dans cette situation où on a Donald Trump, et là, il y a deux possibilités. Soit on considère que c'est un dictateur fasciste et qui, donc, contre lui, donc, on mobilise toutes les armes imaginables et ses électeurs sont vus comme des fascistes qui se reconnaissent dans un fasciste, ou on se dit on est en désaccord profond avec lui sur tant et tant de choses. Il n'en demeure pas moins que c'est un président élu dans une démocratie occidentale et que ses électeurs ne sont pas tous fous et qu'ils ont des raisons, malgré ses gaffes. Malgré ces phrases, ils ont des raisons de voter pour lui. Et parmi ces raisons, j'en évoque deux. Alors, c'était évoqué effectivement par ton chroniqueur la semaine passée, et je vais y revenir. C'est ce qu'on appelle le projet 1619. Alors, le projet 1619, c'est un projet porté par le New York Times qui propose de réécrire l'histoire américaine, de la redéfinir en faisant de l'esclavage, donc du racisme qui en découle, la trame fondamentale, la vérité fondamentale de l'histoire américaine. Donc, qui propose un renversement de l'histoire américaine. Jusqu'ici, quand les Américains regardaient leur histoire, ils disaient, bon, c'est un pays qui se veut fondé sur une promesse de liberté, mais il y a une tâche fondamentale, il y a un péché originel dans cette histoire, c'est le racisme, c'est l'esclavage. Mais l'esclavage, c'est pas la vérité profonde du pays, c'est l'erreur fondamentale que nous avons dû corriger, que nous devons encore corriger. Le New York Times, avec son projet 1619, qui représente bien l'évolution de la vision de l'histoire dominante aux États-Unis, nous dit non, maintenant, eh bien, il faut réinterpréter l'ensemble de l'histoire sous le signe de l'accusation fondamentale contre le pays. Eh bien, résultat, il y a beaucoup d'Américains qui disent non, on n'est pas prêt à se reconnaître dans une telle lecture de l'histoire qui est non seulement accusatrice, mais qui est fausse, parce qu'on ne saurait faire de l'esclavage la trame de fond qui commande l'ensemble de l'histoire du pays. Et j'ajoute que le New York Times lui-même, le projet 1619, est en train d'amender sa propre proposition historique parce qu'il est contredit par des historiens très sérieux.
Ils sont en train de reculer, là.
Ben, sur certains points, il commence à se dire, là, bon, manifestement, on l'a peut-être mal visé. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la vraie fondation des États-Unis, mettons, c'est 1619? C'est un peu culotté, quand même.
C'est parce deuxième qu'on peut... élément... Excuse-moi, mais je fais rien qu'une parenthèse là-dessus, là, puis on va aller à ton deuxième élément, mais tu ne peux pas résumer l'histoire d'un pays aussi riche, aussi vaste que l'histoire des États-Unis à un truc, là. C'est comme si on disait l'histoire de France, ça se résume à la colonisation. Et ça dit tout sur la France.
Absolument. Enfin, on est dans, autrement dit, dans une espèce de réduction historique où il s'agit en fait de réduire un pays à sa tâche fondamentale. Les Américains se reconnaissent pas là-dedans. Et Trump est celui qui dit non, ça on n'accepte pas ça. Donc il occupe l'espace, appelons ça, du patriotisme historique. Deuxième élément qui est aussi important. On l'a vu beaucoup ces derniers temps, ça remonte beaucoup à l'actualité avec les questions liées avec l'affaire George Floyd, c'est la question du racisme aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a du racisme aux États-Unis? Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute sur ça, c'est un vrai problème dans l'histoire du pays. Mais ce qu'on a vu, c'est au nom de cette lutte contre le racisme, dans l'entreprise privée, mais aussi dans l'administration publique, il y a de plus en plus de formations qui prétendent, c'est des formations qui prétendent former contre le racisme, mais si on s'intéresse un peu à ces formations-là, on entre dans un univers mental orwellien et délirant. On va nous dire, par exemple, tous les Blancs sont racistes du simple fait qu'ils sont Blancs. Pourquoi dès qu'on est Blanc, on est raciste? Parce qu'on était socialisé dans l'univers de référence symbolique qui nous explique que la blancheur, la blanchité est la norme universelle, donc du simple fait d'être blanc, on était conditionné dans un système qui nous avantage, qui nous donne un privilège blanc, qui nous donne l'avantage du racisme systémique. Donc, on est coupable d'être blanc et l'objectif qu'on doit se donner, c'est d'être un peu moins blanc, selon la formule de Robin DiAngelo, qui est une des théoriciennes de l'antiracisme aujourd'hui. Et là, quand on regarde ces formations-là, on va nous dire, par exemple, que quels sont les marqueurs de la culture blanche? Eh bien, ça va être la valorisation du mérite, la valorisation de l'effort, la famille unie, le respect de la grammaire. Alors, c'est complètement absurde, complètement aberrant. Je veux dire, en quoi est-ce que ça, c'est des marqueurs blancs, entre guillemets? On fouille plus loin dans ces formations-là parce qu'elles remontent à la surface. Il y a des cadres d'entreprise, par exemple, ça s'est remonté à la surface il y a 2-3 semaines, je crois, qui sont envoyés dans un camp de rééducation pendant 3 semaines où ils doivent s'accuser dans une forme de rituel expiatoire et accusatoire de leur prix. Ils doivent se dénoncer leur propre privilège blanc, raconter leur réveil, leur woke-itude hein, à la culture de la diversité. Ils doivent s'accuser de leur blanchité, je prends leur mot. Donc, on est devant, et là, c'est aussi de rituel néo-maoïste imposé dans le monde de l'entreprise qui s'impose de plus en plus. Ces formations-là qui se multiplient, eh bien, Trump a dit, je suis désolé, mais c'est pas la responsabilité de l'État fédéral que de financer de la propagande et de l'endoctrinement. Donc, la lutte au racisme, oui, mais l'instrumentalisation de la lutte au racisme pour verser dans le racisme anti-blanc, non. Et si on abolit ces formations-là contre l'endoctrinement par l'État fédéral, on l'accuse de racisme pour ça. J'ai l'impression que là-dessus, il rejoint beaucoup d'électeurs qui se disent il y a quand même des limites à instrumentaliser une cause légitime pour faire le procès de tout un groupe.
Non, mais je prends un truc là dont tu veux parler, les familles unies. On dit que ça, c'est blanc. OK, qu'il va falloir, à un moment donné, arrêter de dire que c'est le modèle familial par excellence. Ça, les chiffres le démontrent aux États-Unis. C'est pas moi qui le dis. Spike Lee a déjà fait un film là-dessus, qu'effectivement, il y a beaucoup de divorces chez les Afro-Américains. Souvent, les pères quittent la famille. Il y a beaucoup de mères qui élèvent seules leurs enfants. Mais là, on est en train, plutôt que dire il faut aider les Afro-Américains à garder des familles unies parce que c'est mieux pour les enfants, plutôt que dire ça, on dit non, vous faites bien, c'est les Blancs qui font mal de rester ensemble. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Moi, ce que je trouve débile, c'est qu'on décide de... Puis ça, bon, c'est la tare de l'histoire américaine, mais on le voit à la puissance 1000, c'est la racialisation intégrale des rapports sociaux.
Oui.
Tout le travail, me semble-t-il, d'une démocratie moderne, c'est de construire une identité commune sous le signe de la culture et non pas de la race. Ça, j'aime le redire, une culture, on peut y participer. On peut venir de Kabylie, on peut venir du Congo, on peut venir de Chine et devenir Québécois, on peut devenir Canadien, on peut devenir Américain. Bon, la question n'est pas raciale. Or, en ce moment, c'est le paradoxe, au nom de l'antiracisme, on radicalise les tensions raciales comme on l'a pas vu depuis longtemps aux États-Unis. On demande à l'État fédéral de financer des formations idéologiques, pas scientifiques pour deux sous, idéologiques d'endoctrinement des employés de l'État, c'est relayé dans l'entreprise privée, on culpabilise entre guillemets les Blancs. Eh bien, faut pas se surprendre si ces gens-là finissent par se dire bon, ben il y en a marre de se faire cracher dessus. Qui est prêt à nous entendre? Et là, il y a l'aventurier mégalomane de Washington, l'étrange personnage qu'est Donald Trump, qui ne suscite pas d'enthousiasme particulier, je crois, chez des gens un temps soit peu éclairés. Mais on a le choix, en d'un côté, un parti démocrate qui fait de l'œil sans arrêt aux groupes les plus intransigeants, et de l'autre côté, Trump qui dit « je vous comprends et je vous tends la main ». Alors, faut pas se surprendre si beaucoup d'Américains, alors je sais pas s'il va gagner, mais les sondages disent qu'il va perdre, et puis bon, est-ce qu'ils vont se tromper deux fois de suite les sondages? Ce serait étonnant. Donc, manifestement, mais imaginons qu'il est seulement 45%. 45%, ce serait une défaite. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 45% des Américains qui disent, là, on est prêt à voter pour lui, tellement on n'est pas capable d'accepter le camp d'en face qui nous fait notre procès en permanence. Autrement dit, il faut chercher à rentrer dans la tête des électeurs de Trump sans supposer qu'ils sont tous fous pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis.
Mais tu as tout à fait raison, Mathieu. Et les un vrai antiraciste, c'est quelqu'un qui est daltonien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se fout de la couleur de ta peau, à la limite, qui ne la voit même pas.
Ah ben,
là, nous avons des antiracistes qui, au contraire, ne font que parler de race.
Mais mon cher Richard, c'est là-dessus que tu ne te rends pas compte que tu viens de trébucher, de déraper. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse aux nouvelles théories antiracistes, c'est quoi un de leurs principaux reproches? C'est ce qu'ils appellent le daltonisme racial. Le daltonisme racial, ça consiste à ne pas voir, à refuser justement de tenir compte de la race dans la définition du lien social. Ça consiste à refuser de racialiser les rapports sociaux. Je précise, soit dit en passant, qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour ça. La ville de Montréal a produit un rapport il y a quelques mois, dont j'avais parlé, je pense, sur mon blog au mois de juin, qui dénonçait le daltonisme racial, qui dénonçait ce refus d'assumer la racialisation des rapports sociaux, qui serait apparemment une étape indispensable sur le chemin de l'antiracisme. Donc, faut pas se tromper. Ce que tu crois être une vertu, le daltonisme, est en fait un crime, cher Richard. Repends-toi et repends-toi maintenant.
Oh mon Dieu, le monde est fou. Les malades ont pris le contrôle de l'asile. Merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Mathieu Bocoté, bonne journée.
Bonne journée.